19-16.
C'est bien noté. Merci Eric Chorin. 19h10 ici à Paris.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au Venezuela. Ce pays d'Amérique latine qui possède les plus grandes réserves pétrolières du monde voit la crise politique s'ajouter à la crise économique. Les deux aspects étant évidemment liés. Pénurie au quotidien et inflation galopante de l'ordre de 200% ont suscité un mécontentement populaire qui a profité à l'opposition lors des élections de décembre. L'année 2016 s'est ouverte avec une opposition anti-chaviste réunie sous le nom de Table de l'Unité démocratique, désormais majoritaire au Parlement. Où va le Venezuela? La question se pose aujourd'hui, non sans une certaine inquiétude au niveau national, bien sûr, mais également régional. Les premiers impactés par la situation en Venezuela étant les Cubains. Le Venezuela fut un soutien indéfectible de la Havane sous les commandes de feu, le leader se réclamant de Bolivar. Avis de tempête sur le Venezuela et période difficile en vue pour le chavisme à l'heure où l'Amérique latine vire à droite. Nos invités, Jeannette Abel, politologue, spécialiste de Cuba à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Les enfants cachés de Pinochet aux éditions Don Quichotte. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS, dernier ouvrage paru, Amérique latine, insubordination émergente aux éditions de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, ce n'est pas la première fois qu'un pays connaît la cohabitation. Qu'est-ce qui fait que celle-ci soit si difficile dans le cas du Venezuela, où l'opposition vient donc de prendre le contrôle du Parlement et a engagé un bras de fer avec les chavistes fidèles au président Nicolas Maduro, successeur et dauphin de Hugo Chavez, décédé en 2013. Il est vrai que c'est la première fois depuis 17 ans que l'opposition est majoritaire au Parlement. Maurice Lemoine.
Écoutez, effectivement, c'est un tournant dans l'histoire du Venezuela, et on peut dire aussi, y compris dans l'histoire récente de l'Amérique latine. En même temps, il ne faut pas surestimer ce qui est en train de se passer au Venezuela. Je veux dire, il y a le commentaire le plus fréquent qu'on entend, c'est la fin d'un cycle populiste, qu'on pourrait d'ailleurs appeler cycle redistributif, ce qui serait plus exact. En réalité, n'oublions pas que le Chili avait rebasculé à droite il n'y a pas très longtemps avec Sébastien Piñera et que 4 ans après, la gauche modérée est revenue au pouvoir au Chili. Donc, soyons prudents par rapport à l'analyse immédiate de ce qui se passe. Cela étant, effectivement, au Venezuela, on a un basculement qui est d'autant plus spectaculaire que ça fait quand même depuis 1998 que les chavistes étaient au pouvoir. On a plusieurs explications possibles, les unes et les autres s'entremêlant. On a d'abord des problèmes réels dus à une mauvaise gestion ou à l'inefficacité du gouvernement vénézuélien, qui sont démultipliés par une déstabilisation économique qui a été organisée par l'opposition, qui est très souvent passée sous silence, et par ailleurs une conjoncture internationale dans laquelle on a, pour prendre l'exemple le plus énorme, la chute spectaculaire des prix du pétrole et pour les autres pays de la région, et du pétrole, des hydrocarbures et des matières premières en général. Donc on a effectivement une conjoncture qui est en train de changer par rapport à ce qu'on a connu pendant les 15 dernières années.
Jeannette Abel.
Je pense qu'il faut resituer quand même en premier lieu la crise vénézuélienne dans un contexte géopolitique international, y compris sans escamoter, sans éviter de parler des difficultés propres au Venezuela même et aux orientations qui ont pu être suivies dans les années récentes. Mais le contexte général, c'est d'abord la crise internationale, la chute des prix des matières premières, comme Maurice Villemoine vient de dire, en particulier du pétrole qui représente 80% des ressources du Venezuela et du ralentissement économique de la Chine. Et ça, pour toute l'Amérique latine, pour le continent, c'est un événement très important. Et en particulier pour le Venezuela, c'est un premier élément. Après, il y a un deuxième élément de la crise. On ne souligne pas suffisamment, à mon avis, les aspects contradictoires qui ont conduit à la crise actuelle. Dire d'une part que la baisse des prix du pétrole, attention, la baisse des prix du pétrole, c'est pas une petite baisse. On est passé de 120 dollars le baril. Avant-hier, on était à 35. Pour un pays, évidemment, dont l'essentiel des ressources vient des des hydrocarbures.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Après, on peut discuter des stratégies économiques qui ont été mises en place auparavant. C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas préparé une transition, ou insuffisamment préparé une transition énergétique, et le fait que ces économies pétrolières, ces économies rentières, sont des économies dont il faut sortir, parce qu'on en connaît aujourd'hui les conséquences.
Et personne n'a trouvé la recette.
Et il faut dire là, pour nuancer ce propos, que cette transition, ce passage à une économie diversifiée, auto-centrée, industrialisée, demande du temps et des moyens. Et là, je termine en disant une chose, parce qu'elle me semble essentielle pour la compréhension de ce qui se passe dans le pays. Chavez, quand il est arrivé au pouvoir, a privilégié la redistribution grâce à ses revenus du pétrole. Il a privilégié la redistribution de ses ressources. Et il a privilégié, dans un premier temps, le fait d'assurer aux plus pauvres dans le pays un minimum de ressources, une redistribution sociale qui a fait qu'on est sorti dans des proportions inconnues jusqu'alors de la pauvreté. Jusqu'à 2013. Hein, les choses changent depuis 2013. C'est très important de comprendre cela parce que après, il y a une vraie contradiction. On met en cause sa diplomatie pétrolière. La manière dont il a accordé à Cuba et à d'autres pays des Caraïbes, avec Petrocaribe précisément, des conditions extrêmement favorables de livraison du pétrole. Mais ça lui a permis aussi de contrecarrer le projet de l'ALCA, le projet de zone de libre-échange des Amériques, qui aurait été une catastrophe pour l'ensemble des pays d'Amérique latine. Donc on a une situation, je veux dire par là pour terminer, une situation contradictoire, difficile. On ne peut pas dire comme ça facilement, il y a cas, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. C'est des situations très complexes. Et dans un article récent que j'ai lu, on justifie le fait que d'abord et en premier lieu, on ait voulu sortir de la pauvreté les plus pauvres du Venezuela, en sachant qu'après, il fallait faire autre chose. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait après? Comment? Ça, c'est aussi un débat qu'il faut avoir.
Jean-Jacques Courlionski, vous partagez ce qui vient d'être dit par Maurice Lemoine et Jeannette Abel?
Oui, c'est bien mon problème. Je vais avoir des difficultés à faire preuve d'originalité. Bon, premier point, je crois qu'il faut replacer ce qui se passe au Venezuela dans un contexte assez général, où les électeurs sanctionnent les gouvernements en place. Effectivement, au Chili, ça a provoqué une alternance dans l'alternance. En Argentine, une cohabitation qui n'est pas non plus des plus faciles. Et au Brésil, on se rend compte que les dernières élections, si elles ont permis la victoire de la présidente sortante, ça ne lui a pas pour autant donné une majorité très facile, c'est le moins qu'on puisse dire, au Parlement. Donc l'élection vénézuélienne se situe dans ce contexte global de crise économique, avec des électeurs mécontents et qui le font savoir par le bulletin de vote. Ce qui est d'ailleurs un élément positif si on regarde la situation de l'Amérique latine il y a une quarantaine d'années, où les électeurs n'avaient pas le moyen d'exercer leur desiderata. Aujourd'hui, c'est le cas dans un sens ou dans l'autre. Alors cela dit, moi je vois deux éléments qui donnent à la crise vénézuélienne un caractère peut-être plus aigu, avec des retombées plus fortes qu'en ce qui concerne ce qui s'est passé au Chili, en Argentine, pour deux raisons. Donc la première est internationale. Hein. Le gouvernement du président Chavez, pour l'essentiel, avait utilisé le pétrole comme une arme diplomatique et avait créé un réseau donc dont la concrétion institutionnelle la plus connue ça s'appelle l'ALBA, qui avait pris une influence extrêmement importante sur le continent américain. Et il y a d'ailleurs un élément assez intéressant. L'une des sous-institutions de l'ALBA, Petrocaribe, est un ensemble que finançait en partie le Venezuela pour aider les petits pays de la Caraïbe à se fournir en pétrole à des prix intéressants. Donc Petrocaribe n'a plus les moyens d'assurer ses fins de mois. Et au mois d'avril de l'année dernière, le président Obama, avant le dernier sommet des Amériques, s'est réuni avec les pays de la Caraïbe pour leur dire « Bon, ben, écoutez, moi, je suis prêt à prendre le relais. » Donc, je veux dire, donc, ce qui se passe au Venezuela dépasse ce qui se passe en Argentine ou au Chili en raison de l'influence internationale qu'avait acquis le Venezuela ces dernières années. Le deuxième point, c'est le caractère très aigu, beaucoup plus antagoniste, beaucoup plus polémique, beaucoup plus violent des affrontements politiques au Venezuela que dans d'autres pays. Il ne faut pas oublier que dès l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir, donc il s'est heurté à une position extrêmement mobilisée. Il y avait eu une tentative de coup d'État, il y avait eu une tentative de déstabilisation de la société pétrolière PDVSA, Et il y a quelques mois, donc, une partie de l'opposition avait tenté de le renverser par des manifestations de rue qui portaient un nom qui était tout à fait explicite, la sortie, la salide. Alors, du côté, d'ailleurs, des partisans du président Hugo Chavez, il y a également des éléments qui sont assez radicalisés, ce qui veut dire que d'un côté comme de l'autre, on a une interprétation et une conception de la démocratie qui est assez élastique si l'on l'analyse en fonction de nos critères ou même des critères qui sont appliqués dans d'autres pays d'Amérique latine. Alors, moi, je peux émettre qu'une hypothèse. C'est vrai que le Venezuela, à la différence de certains autres pays d'Amérique latine, n'a pas connu de révolution comme à Cuba, ou n'a pas connu de dictature féroce comme dans les pays du cône sud de l'Amérique du Sud. Et que donc, il n'y a pas peut-être ce respect de règles minimales que l'on constate en Argentine, au Brésil, au Chili, en Uruguay, qui viennent de cette expérience traumatisante des années de dictature.
Alors, pour en revenir à ce que vous disiez, Maurice Lemoine, sur la déstabilisation économique de l'opposition, ce sera peut-être intéressant de développer, je ne sais pas si les uns et les autres, vous êtes d'accord. En tout cas, donc, pour mémoire, sur le plan politique, le mandat de Nicolas Maduro court jusqu'en 2019. La question qui se pose aujourd'hui, c'est ce qu'il pourra aller jusqu'au bout. Face à donc un Parlement entre les mains de l'opposition, une opposition qui, elle-même, est tout de même assez, assez désunie.
Oui, on est dans une situation qui est une situation difficile pour tout le monde. Sur le concept de la polarisation, là pour le coup je ne vais pas m'opposer à Jean-Jacques Olansky, mais je pense qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Argentine, où le retour de la droite se fait avec une extrême brutalité, puisque là on est à un mois de l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri, on a déjà 12 000 licenciements dans la fonction publique, donc il n'est pas impossible qu'on découvre que l'Argentine aussi, par exemple, est un pays polarisé. Sur le Venezuela, je crois qu'il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Il y a une des fêtes lourdes de ce qu'on va appeler les chavistes ou les bolivariens ou la gauche, pour aller vite. En même temps, quand on examine les chiffres, on se rend compte de deux choses. La table d'unité démocratique, donc la droite, a augmenté son vote par rapport à l'élection de Nicolas Maduro de 350 000 voix. En revanche, le camp chaviste a perdu quasiment 2 millions de voix. Cela signifie que les voix chavistes ne se sont pas reportées sur la droite et que ce vote ne signifie pas que les Vénézuéliens veulent revenir à un modèle néolibéral. D'une certaine manière, c'est un débat au sein même de la gauche, dans lequel on a un vote de sanctions, on a un vote de découragement, on a un vote de fatigue devant la situation économique. Et je reviens évidemment sur mon point de départ, dans lequel on a à la fois les erreurs du gouvernement, mais la déstabilisation. Souvenez-vous, au moment du Chili, lorsque le président Nixon donne l'ordre « faites crier l'économie », qui est une phrase qui est restée célèbre dans la mémoire collective.
Là, juste pour nos auditeurs, on se situe dans les années 70 du siècle passé.
Voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est déjà loin. Bon, on est dans la même configuration. Il y a une déstabilisation économique, on retrouve les mêmes phénomènes, c'est-à-dire les fameuses pénuries. Or, les pénuries peuvent être dues à des mesures endogènes, mais elles sont également dues au fait, par exemple, que les importateurs reçoivent des devises du gouvernement vénézuélien, importent la marchandise, mais ne la mettent pas en vente. Et la retransmettent dans la rue, au marché noir, à ce qu'on appelle les bachaqueros, qui vont la vendre dans la rue à des prix 2, 3, 4, 5 fois 10 fois. Par ailleurs, le Venezuela a 2300 km de frontière avec la Colombie. Il y a un phénomène de contrebande quasiment industrialisé qui s'est mis en place, puisque de janvier à novembre 2015, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les forces de sécurité vénézuéliennes ont saisi 26 735 tonnes d'aliments. Vous vous rendez compte? Bon. Tout ça, évidemment, ce n'est plus sur les étals de supermarché. Donc voilà, ça, c'est un problème. Donc la population, effectivement, si vous êtes vénézuélien aujourd'hui, il vous faut 4 heures pour faire vos courses. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de tout ça. Et donc, il y a une grande fatigue. Après, dans le vote sanction, le mouvement chaviste n'a jamais été homogène. C'est-à-dire que vous avez des révolutionnaires, vous avez des sociaux-démocrates, vous avez un peu de tout. Et donc, il y a une partie de la critique qui reproche au gouvernement Maduro de ne pas aller plus à gauche. C'est-à-dire qu'il va y avoir un débat à la fois dans la gauche et au sein de la droite, puisqu'on sait aussi que la droite n'est pas homogène du tout. On a un affrontement entre ceux qui choisiraient plutôt la voie démocratique, enfin je veux dire normale, comme Enrique Capriles, qui a été battu 2 fois à la présidentielle, et puis les secteurs extrémistes, représentés par Leopoldo López, qui est actuellement emprisonné. Et là, il y a un affrontement extrêmement brutal. La question qu'on peut se poser, c'est quel courant va l'emporter, et surtout, et y compris, est-ce que le gouvernement de Nicolas Maduro va être capable d'avoir un minimum de dialogue sans renoncer en principe avec la partie la plus démocratique de la droite.
On sent que les choses peut-être ont tendance au fil des jours à se détendre, mais tout ça de façon très très ténue, Jeannette Abel. Et vous étiez justement au Venezuela il y a quelques jours, juste pour nos éditeurs, peut-être quelque chose à illustrer. On l'évoquait tout à l'heure, une inflation de 200%, la chute des prix du baril de pétrole. Bref, le Venezuela est dans une situation économique particulièrement critique.
Oui, c'est une situation très difficile. Le vote n'est pas surprenant. Hein. On s'attendait à ce que l'opposition remporte la victoire sur le plan électoral. Peut-être pas dans ces proportions-là. La vie quotidienne devient infernale. C'est pas seulement les queues, c'est les pénuries, évidemment. Mais j'ai trouvé que l'ambiance avait complètement changé parce que entre la période sous Chavez où, grâce à la redistribution sociale considérable qui était effectuée, le niveau de vie avait augmenté. Mmh. Enfin, c'était accru. Je ne parle pas des classes moyennes. Je parle des pauvres, de ceux qui habitent dans les ranchos, hein, dans les bidonvilles autour de Caracas. Là, depuis 2013, d'après les chiffres maintenant qui ne sont contestés par personne, il y a une remontée de la pauvreté. On est passé désormais, enfin, on a une augmentation déjà en 2 ans de 7 à 8%, ce qui est évidemment beaucoup. Et donc, rien que cet indicateur là traduit la difficulté de la situation. Alors après, je trouve que cette histoire de guerre économique, c'est-à-dire l'argument constant du gouvernement, qui n'est pas faux, est totalement insuffisant quand même. Ça n'est pas seulement la guerre économique qui explique les difficultés. D'abord, il y a des phénomènes de corruption, y compris au sein de la police, dans certains secteurs de l'administration, qui exaspèrent les gens. Il y a des scandales qui sortent sans arrêt. Bon, il y a effectivement le chavisme, est un chavisme hétérogène. Il y a plusieurs courants politiques à l'intérieur, avec des gens qui ont des positions, qui s'emparent de ces positions pour avoir des privilèges qui ne sont pas du tout des privilèges secondaires. Ça contribue quand même aussi à la démoralisation des gens. Et d'autre part, il n'y a pas de stratégie économique alternative proposée. En tous les cas, même à long terme, je le disais tout à l'heure, c'est compliqué dans des pays de ce type, hein, économie rentière, économie pétrolière. Entre parenthèses, une économie rentière de ce type pétrolière favorise partout la corruption. Enfin, je prends l'exemple de l'Algérie, qui n'est pas comparable au Venezuela, mais c'est vrai aussi bien en Algérie. Donc, il faut sortir de là. C'est difficile, c'est compliqué, mais il faut au moins avoir cette perspective. Or, je trouve que là, le gouvernement Maduro, bien sûr, est prisonnier des difficultés actuelles, mais pour l'instant, n'indique pas cette perspective et n'indique pas une voie différente, n'explique même pas suffisamment la nécessité d'aller vers une économie plus diversifiée, où on n'est pas prisonnier, où la sécurité alimentaire va commencer à pouvoir se développer, parce qu'actuellement, on est complètement dépendant des prix du pétrole.
Et on voit Caracas envisager d'intervenir auprès de l'OPEP afin d'obtenir que le baril ne poursuive pas sa chute, Jean-Jacques Kolianski, pour terminer cette première partie de l'émission.
Ouais, enfin, la marge de négociation du Venezuela au sein de l'OPEP est très faible. Ce sont les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite qui sont actuellement dans un bras de fer avec les États-Unis, qui sont devenus à nouveau producteurs et exportateurs de pétrole et donc qui ont choisi d'accroître la production, ce qui fait baisser les prix au moment où l'Iran revient sur le marché. Et donc on voit pas très bien. Alors effectivement, le président vénézuélien a raison d'aller taper à la porte des Iraniens et des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite, mais pour l'instant, le résultat de cette négociation est tout à fait négatif, parce que les éléments du bras de fer ne dépendent pas du Venezuela, mais ils dépendent des États-Unis, ils dépendent de l'Arabie et dans une certaine mesure aussi de l'Iran. Donc le Venezuela est renvoyé à ces contradictions. Bon, alors c'est vrai, moi je partage l'analyse selon laquelle il y a des gens qui spéculent, mais c'est le système est arrivé une telle incohérence entre la partie dirigée de l'économie et la partie libre marché, qu'elle ouvre la voie à des comportements individuels qui sont des comportements spéculatifs, de contrebande quand on est à la frontière. Il y a 3 niveaux de change, il y a des produits subventionnés. Donc c'est vrai que lorsque on est colombien, on a plutôt intérêt à essayer de trouver un canal de fournisseurs d'huile, de sucre, d'essence de l'autre côté côté de la frontière parce que les prix n'ont aucun rapport dans la mesure où ils sont subventionnés du
avec
côté...
Avec la réalité du marché.
La réalité du marché. Alors j'ai regardé par curiosité quand la frontière a été fermée par le Venezuela, qui est une mesure d'urgence mais qui ne règle rien. C'est une espèce de cocotte minute qu'on met de couvercle sur la cocotte minute. Du côté colombien, c'était une situation de catastrophe dans les villages frontaliers, dans les communes frontalières, parce qu'il y a une économie qui s'est greffée, qui vit aussi du côté colombien sur la contrebande avec le...
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur le Venezuela. Nous retrouvons nos invités Jeannette Abel, politologue spécialiste de Cuba à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier Les enfants cachés de Pinochet aux éditions Don Quichotte. Et Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS. Dernier ouvrage paru, Amérique latine, insubordination émergente aux éditions de la Fondation Jean Jaurès. Nous avons abordé dans la première partie de l'émission les aspects notamment économiques liés la situation au Venezuela avec la question de la gestion économique du pays qui se retrouve aujourd'hui avec un prix du pétrole qui a fortement chuté comme partout dans le monde, mais parmi les pays les plus impactés sans doute le Venezuela. Un président chaviste, un parlement qui a viré à droite lors des élections de décembre dernier, donc une cohabitation difficile pour le Venezuela, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission. Très rapidement, qu'est-ce que l'opposition a à proposer en termes de recettes économiques pour le Venezuela, Jeannette Abel ?
C'est toute la question, parce que c'est une opposition très divisée. La MUD, on dit table d'unité démocratique en français. Bon, c'est la tribune ou la présidence, je ne sais pas comment on pourrait traduire plus précisément, mais n'a pas vraiment pour l'instant de programme en positif à proposer. Par contre, on sait que dans les mesures qui sont prévues par l'opposition, en premier lieu, c'est une mesure, une décision qui n'est pas économique, puisque c'est l'amnistie d'un certain nombre de prisonniers politiques. Et c'est ça la première mesure qui est envisagée. Sur le plan économique, c'est la remise en cause d'un certain nombre de décisions. Alors la réforme, la loi sur la terre qui avait été prise sous Chavez, une loi sur les semences qui permettait de limiter ce que Monsanto pouvait faire sur le plan écologique.
Monsanto, la société donc nord-américaine.
Une loi sur le travail qui contraint les entreprises à limiter de manière très importante les licenciements. Donc en fait, une série de mesures, une remise en cause de mesures sociales qui ont été propres du chavisme. Ce qui n'est pas très, je dirais, intelligent, entre guillemets, parce que tout le problème de cette opposition et ce qui est dit dans les coulisses par certains qui mesurent mieux les rapports de force, c'est que il ne faut pas, dans un premier temps, s'affronter directement aux chavistes sur le plan social, que tout cela pourrait coûter très cher. Et donc, il faut d'abord consolider l'assise politique. Donc, les propositions économiques, pour l'instant, sont assez limitées et elles n'ont pas fait l'objet ni de dépôt de projet de loi. Alors, bien sûr, on est au tout début de la législature. Alors, cela dit, sans entrer dans les détails techniques, on est dans un régime où les pouvoirs présidentiels sont forts. Le gouvernement est nommé par le président, en l'occurrence par Maduro. On est à 3/5 des voix sur le plan parlementaire, alors qu'on était à 2/3, parce qu'on a invalidé 3 députés de l'opposition et 1 député de la majorité.
Donc la majorité de l'opposition n'est pas aussi forte que annoncée en
voilà,
en premier
et lieu. La majorité des 2/3 qui, là, pour l'instant, en tous les cas, est perdue et qui donne lieu à un débat constitutionnel, on ne va pas rentrer dans les détails, un débat d'interprétation constitutionnelle. Cette majorité des 2/3 permettait notamment d'envisager un référendum révocatoire envers le président Maduro. Le fait qu'on passe au 3/5 limite cette possibilité. Bref. Alors oui, je sais qu'il y a une interprétation, Maurice Lemoine
n'est pas d'accord.
Mais je sais qu'il y a un débat constitutionnel sur le sujet et il y a un désaccord sur le sujet. Dans tous les cas, voilà, je pense que le fait d'avoir perdu cette majorité des 2/3 limite un peu les marges de manœuvre de l'opposition, mais qui reste quand même extrêmement majoritaire, puisque là aussi, en dépit des débats, on est à 101 députés sur 167. Donc 101 députés de l'opposition... même avec les derniers décomptes, sur 167 députés à l'Assemblée nationale. Donc on a quand même une majorité
alors,
très forte.
Alors Maurice Lemoine, et après ça nous aborderons l'impact régional. Maurice Lemoine.
Oui, le désaccord que j'ai exprimé par des signes désespérés à Jeannette Hamel repose sur le fait que le référendum révocatoire, en fait, peut être, et a déjà été, convoqué par la population. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réunir les signatures 20% de la population pour pouvoir convoquer un référendum révocatoire. Donc cela ne dépend pas de l'Assemblée nationale, en réalité. Le problème qui est posé, effectivement, il est simple, en réalité. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Henri Ramos Ayoub, a annoncé qu'il se donnait 6 mois, que les secteurs radicaux de l'opposition se donnaient 6 mois pour sortir Maduro et son gouvernement. Si on se place d'un point de vue de l'opposition vénézuélienne, après tout, vouloir en finir avec le gouvernement Nicolas Maduro, c'est parfaitement légitime dans la mesure où c'est l'objectif de tout combat politique. Cela étant, effectivement, je veux dire l'opposition, on l'appelle l'opposition qui est maintenant la majorité parlementaire, c'est 15 ans d'habitude, ça. La droite, pour être plus clair, a... pour en finir avec Nicolas Maduro, le Chavis, un instrument constitutionnel qu'est le référendum révocatoire. La question est de savoir, est-ce qu'ils vont tenter de sortir Maduro par les voies normales, le référendum révocatoire, ou est-ce qu'ils vont tenter autre chose, dans la mesure où, de mon point de vue, ça peut être discuté, je ne suis pas sûr que, en cas de référendum révocatoire, la droite l'emporterait sur Nicolas Maduro. Précisément à cause du danger de retour à un modèle néolibéral. Là, il y a eu un vote sanction, y compris moi, des Vénézuéliens expliquaient. On a voulu donner un signal au gouvernement, tout le monde a dit on va les sanctionner, et le lundi matin après l'élection, tout le monde a été complètement surpris par l'ampleur de la catastrophe, et donc, il n'est pas impossible qu'en cas de conflit aigu, et y compris avec le risque de retour total de la droite au pouvoir, les chavistes remobilisent, et donc le référendum révocatoire n'est pas forcément gagné par l'opposition. Ensuite, si effectivement les secteurs radicaux de la droite choisissent la déstabilisation de Nicolas Maduro, on risque de rentrer dans une phase extrêmement sévère d'affrontement politique qui, y compris, peut déboucher sur une situation de violence, ce qui est d'une certaine manière assez inquiétant.
Et évidemment, qui n'est pas souhaitable pour le Venezuela. Jean-Jacques Kourlianski, l'impact régional de la situation au Venezuela, à la fois politique et économique, il est très fort cet impact sur Cuba, je le disais en introduction de l'émission. Cuba, qui est fortement dépendante des 100 barils de brut achetés à prix d'amis au Venezuela. Alors, Cuba a enregistré ces dernières années une politique un peu de prudence et de diversification. Il n'empêche que l'impact est là.
Alors, les réactions régionales dépassent évidemment Cuba. Elles dépendront aussi de l'évolution de la situation au Venezuela. Si tant du gouvernement, de la part du gouvernement actuel, du président du Venezuela, que de la majorité parlementaire, on oublie l'économie et le social pour se concentrer sur un problème de légitimité et de contestation de la légitimité de l'autre, la situation risque d'évoluer dans un sens imprévisible pour l'opposition comme pour le camp chaviste. Dans la mesure où le résultat de cette élection, le problème principal qui était posé, c'était celui du modèle économique. Alors, soit du côté du gouvernement, du président, on continue sur la ligne un peu paranoïaque du complot extérieur, soit du côté de l'opposition, on considère que l'économie c'est secondaire, le principal c'est de renverser le président, et à ce moment-là, les électeurs vont se sentir pris en otage et absolument pas écoutés, et il peut y avoir une évolution de la situation qui nécessite une intervention des pays voisins dans le cadre d'abord de l'UNASUR, dans l'Union des Nations d'Amérique du Sud.
Quand vous dites intervention, vous dites quoi, Jean-Jacques Kourlianski ?
Diplomatique. Ça a déjà été le cas, il y a eu des médiations, il y a eu, pour les dernières élections, le gouvernement comme l'opposition ont accepté la présence d'observateurs de l'UNASUR. C'est dans le cadre de cette évolution de l'Amérique latine qui essaie de régler ses problèmes par elle-même. Le Brésil a été le premier à réagir à ce conflit en légitimité que se renvoient les uns et les autres en signalant que dans l'Amérique latine du 21e siècle, aucun dérapage anticonstitutionnel ne serait toléré par l'Amérique du Sud et en général le Brésil. En particulier, le message s'adressait de façon assez explicite de la chancellerie brésilienne aux camp chavistes comme à celui des radicaux de l'opposition. Alors, en ce qui concerne Cuba, ce qu'on peut noter, c'est que les Cubains ont quand même eu une expérience assez douloureuse au moment de la rupture avec l'Union soviétique. L'aide soviétique reposait aussi sur la fourniture de pétrole à des prix qui ne correspondaient pas à ceux du marché. Donc, il y avait eu ce qu'on appelle la période spéciale, qui avait été une période, un moment extrêmement difficile pour le gouvernement, bien sûr, mais aussi pour la population. Et là, le constat que l'on peut faire, c'est que ce que Raúl Castro a essayé d'anticiper, sans pour autant modifier quoi que ce soit dans les relations qu'il entretient avec le Venezuela, il y avait une volonté d'essayer de trouver d'autres fenêtres de sortie, parmi lesquelles ce vieux problème qui bloque le développement de l'économie cubaine depuis les années 60, la levée de l'embargo des États-Unis, le rétablissement des relations avec les États-Unis, ne serait-ce que en essayant d'attirer des touristes nord-américains qui sont à 200 km des côtes cubaines, ce qui apporterait des devises qui sont bienvenues dans la situation actuelle. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre un petit peu les inquiétudes à l'égard du Venezuela des autorités cubaines et la volonté d'aller vers une levée totale de l'embargo, ce qui n'est pas acquis d'ailleurs.
En tout cas, ce qu'on pouvait évoquer comme étant l'ascendant du Venezuela sur Cuba, d'une certaine manière, sur le plan notamment économique, ça c'est une période qui est totalement révolue.
Il y a un autre élément intéressant à signaler, c'est la réaction des nouvelles autorités argentines. Ce qui prouve qu'il y a un changement de contexte, de climat général en Amérique du Sud, dont le président Mauricio Macri, qui est un président assez original en Argentine, de droite, de Buenos Aires, avait annoncé que dès sa prise de fonction, il demanderait la suspension du Venezuela, de l'adhésion, de la participation du Venezuela au Mercosur. Décision sur laquelle il est revenu après la victoire de l'opposition.
Jeannette Abel, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, donc l'ascendant du Venezuela sur Cuba, pas tout à fait, disiez-vous,
ascendant,
encore avec Maurice Lemoine.
Oui, non, parce que l'ascendant, il est, enfin, c'est le pétrole.
Oui.
Bon, parce que sur le plan politique, l'ascendant, il est dans l'autre sens. Hein. L'ascendant politique, c'est celui de Cuba, de son influence au Venezuela.
Je pensais économie.
Bien sûr, non, sur le plan économique. À Cuba, on a anticipé, depuis longtemps maintenant, depuis la mort de Chavez, la possibilité d'une victoire de l'opposition et donc d'une remise en cause des accords préférentiels sur les livraisons de pétrole, qui sont des accords plus que préférentiels. Cuba bénéficiait et bénéficie encore de conditions préférentielles supérieures à celles qui sont accordées aux pays des Caraïbes. Donc on estime maintenant à 25% la diminution des livraisons de pétrole de la part du Venezuela à Cuba. Il est possible que ce chiffre ne soit pas tout à fait exact. Et après, il y a les conditions financières. Les conditions financières jusqu'à maintenant sont extrêmement favorables. Et Cuba bénéficie paradoxalement aussi d'une certaine façon pour ses achats de pétrole à l'extérieur du fait que le prix du pétrole a baissé de façon aussi considérable. Alors, juste un dernier mot. Cuba, en plus, a diversifié ses relations avec des pays pétroliers comme l'Angola, et y compris à diversifier ses relations avec certains pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Donc le tourisme dont Jean-Jacques Kourlianski parlait était en progression exponentielle. On est à plus de 3 millions de touristes cette année. Ça compense aussi les envois de l'extérieur aussi. On va avoir des précisions sur tout cela puisque le congrès du Parti communiste cubain aura lieu au mois d'avril de cette année 2016 et que sur le plan des stratégies économiques, là, il va y avoir des modifications qui vont être importantes.
Maurice Lemoine.
Sur le l'aspect pétrole, évidemment, on peut réfléchir que l'effort consenti par le Venezuela pour aider Cuba ou pour aider les pays de la région à travers l'accord Petrocaribe n'est forcément pas le même lorsque le pétrole est à 100 dollars le baril que lorsqu'il est à 30 dollars. Je veux dire, évidemment, le Venezuela a subventionné d'une certaine manière les pays de la région. Ça se justifie beaucoup moins maintenant. Ensuite, sur l'ensemble de la région, il y a un pays dont on... Par définition, on n'a pas le temps de couvrir toute l'Amérique latine, dont on n'a pas parlé, mais c'est le Brésil qui est aussi la pièce maîtresse dans ce grand jeu entre le supposé retour de la droite ou le maintien de la gauche. Il est évident que les difficultés actuelles de Dilma Rousseff, dans des conditions qui aussi prêtent à controverse, je veux dire, c'est des interprétations de la Constitution, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça nous ramène au thème de la corruption. Dans le vote punition qui a été infligé au gouvernement de Maduro, il y a en particulier effectivement l'exaspération de la population devant des faits de corruption. On retrouve le même type de phénomène au Brésil. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on a en ce moment un reflux de l'appui des secteurs populaires aux gouvernements en place, aux gouvernements de gauche en place, dans la mesure où, rappelons-le quand même, l'ensemble de ces pays, vous prenez le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, ont sorti 56 millions de personnes de la pauvreté. Mmh. Il se trouve qu'on a donc un certain nombre de dizaines de millions de personnes étant sorties de la pauvreté, ont maintenant d'autres aspirations. Or, effectivement, On peut discuter des stratégies qui ont été mises en œuvre. Vous pouvez difficilement faire un effort social pour sortir les gens de la pauvreté et en même temps développer, par exemple, les secteurs, les services publics. Donc aujourd'hui, il y a une demande de gens qui sont sortis de la pauvreté, d'une meilleure qualité de vie, qu'on peut atteindre rapidement ou pas, ça c'est un autre débat, mais qui effectivement explique les contradictions, les difficultés actuellement de ces gouvernements face à des populations dont je crois vraiment, c'est pas une posture idéologique, qu'elles ne souhaitent pas le retour au modèle néolibéral qu'on a connu avant la fin des années 90.
Donc prudence quant à l'affirmation, hein, c'est ce que j'entends, Maurice Lemoine, de ce que vous venez de dire, quant à l'affirmation du virage à droite de l'Amérique latine. Jean-Jacques Konlianski, ce qu'on voit, pour en revenir à la question vénézuélienne à proprement parler, la situation, elle préoccupe l'environnement régional et au-delà. On a tout de même vu cette semaine deux entités, enfin un pays et puis une entité, c'est l'Organisation des États américains qui demande que l'équilibre institutionnel des pouvoirs au Venezuela soit respecté. Les États-Unis qui ont également la semaine dernière appelé les pays du continent à défendre les valeurs démocratiques au Venezuela. Bref, ce qu'on sent, c'est une certaine forme d'inquiétude autour de la situation au Venezuela aujourd'hui, Jean-Jacques Konlianski.
Oui, enfin, il faut pas exagérer non plus la portée de cette inquiétude. Hein. Les inquiétudes des États-Unis se portent plutôt vers d'autres régions du monde en ce moment que vers l'Amérique, latine et l'Amérique du Sud.
Mais pour s'en tenir au continent.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la réaction brésilienne qui a retenu mon attention dans la mesure où le Brésil a un rôle quand même majeur dans les équilibres de la région Amérique du Sud. Il y a eu d'ailleurs, peut-être dans le changement d'attitude du nouveau président argentin, c'est peut-être le résultat de sa première rencontre avec la présidente brésilienne qui a permis de revenir. Voilà. Cela dit, effectivement, il est de l'intérêt de personne en Amérique latine qu'un pays, le Venezuela ou un autre, rentre dans une crise politique et signale une inversion des valeurs, notamment des valeurs démocratiques. C'est pour la raison pour laquelle tous les messages qui sont dirigés au Venezuela ne sont pas dirigés plus spécifiquement au président, mais aussi à l'opposition. Donc il y a un rappel d'un socle qui a été acquis après la sortie des dictatures, qui est celui du respect de l'institutionnalité. Et là, donc le fait qu'il existe une organisation, non pas comme l'OEA, qui parfois est souvent même contestée en Amérique latine et en Amérique du Sud, mais l'UNASUR, l'Union des Nations d'Amérique du Sud, a certainement une légitimité plus importante et a une capacité à être davantage acceptée par les différents acteurs que l'OEA et a fortiori les Nations Unies.
En tout cas, et ce sera peut-être la conclusion et sur laquelle je vous demandais de réagir, sous Hugo Chavez, la perception était que le Venezuela avait une véritable influence dans la région. C'est terminé, Jeannette Abel?
Je ne suis pas sûre que ce soit terminé. Provisoirement, en tous les cas, cette influence est évidemment tout à fait en déclin. Derrière cela, l'intérêt de l'Amérique latine, c'est aujourd'hui, je dirais, quand même deux choses du point de vue géopolitique et du point de vue stratégique. Du point de vue géopolitique, la diplomatie américaine que l'on voit à l'œuvre, c'est une diplomatie de ce que l'on appelle maintenant le soft power, hein, pouvoir
diplomatie intelligent. Américaine, diplomatie de Washington, c'est cela qu'il faut entendre.
Oui, pardon. Diplomatie de Washington, diplomatie des États-Unis. Et c'est ça qu'on voit à l'œuvre. C'est-à-dire que, pour l'instant, en tous les cas, c'est pas les marines qui débarquent, c'est pas les coups d'État, c'est pas ça la diplomatie washingtonienne. La diplomatie washingtonienne, c'est une diplomatie d'influence. Une diplomatie où on appelle les autres gouvernements latino-américains, on leur demande d'intervenir. Ça n'est pas Washington qui officiellement, ouvertement, en tout cas, intervient. Et donc ça, c'est une modification très importante du point de vue de la stratégie par rapport à ce qu'on a connu au 19e et au 20e siècle. Et du point de vue latino-américain, le processus qui est en cours et qui rencontre beaucoup de difficultés, c'est un processus d'intégration latino-américaine dont on voit qu'il est presque chaotique par moment, en tous les cas, qu'il est fait d'avancées, de recul, des avancées avec l'UNASUR, qui est quoi? Qui est une tentative d'intégration des États latino-américains en dehors des États-Unis et du Canada, une tentative d'intégration spécifique, bien avec un développement, ce qu'on appelle le développementisme, la modernisation économique qui est tentée, qui a été tentée au début du XXIe siècle et qui rencontre pour l'instant des difficultés considérables, y compris dans les pays les plus importants de la région. C'est ça qui est à suivre, cet équilibre entre ces deux processus qui sont à l'œuvre et qui sont loin d'être achevés.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Jeannette Abel, politologue et spécialiste de Cuba à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Les enfants cachés de Pinochet, aux éditions Don Quichotte. Et Jean-Jacques Courliansky, chercheur à l'IRIS, dont le dernier ouvrage est Amérique Latine, insubordination émergente, aux éditions de la Fondation Jean Jaurès. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique.